Lettre 49. Monsieur Villard à Evelina. Berry Hill. Moi, désapprouvé, ma chère Evelina, quand vous remplissez si bien votre devoir. Non, mon enfant, j'en suis bien éloigné. Le trait d'humanité que vous me rapportez fait l'éloge de votre cœur, et je rougirais de vous reconnaître pour ma fille si vous étiez moins sensible. En attendant, il n'est pas juste que vous souffriez par vos libéralités. Acceptez le billet 6 juin comme une marque de mon approbation et comme une preuve du désir que j'ai d'appuyer vos bonnes intentions. Oh, ma chère Evelina, si ma fortune égalait votre inclination à faire du bien, avec quelle joie je la sacrifierais à soulager, par vos mains, l'honnête homme indigent. Mais ne regrettons pas les bornes que nous prescrivent nos facultés. Il suffit que nos bienfaits soient proportionnés à nos moyens. La différence du plus au moins ne saurait être d'un grand poids dans la balance de la justice. D'après ce que vous me dites de l'infortuné étranger auquel vous vous intéressez si généreusement, je croirais presque que sa situation provient plutôt d'un manque de conduite que de quelque malheur réel. Si, en effet, il est aussi pauvre que les Branton le prétendent, il devrait tâcher de rétablir ses affaires par une activité industrieuse au lieu de perdre son temps à lire dans la boutique de son créancier. La scène des pistolets m'a fait frissonner. J'ai été étonné de votre courage et je l'ai admiré. Soyez toujours aussi intrépide lorsqu'il s'agit de secourir un malheureux. N'étouffez jamais la voix de la nature par timidité ou par scrupule. La douceur et la modestie sont, à la vérité, l'apanage principal de votre sexe. Mais dans les conjonctures pressantes, le courage et la fermeté n'en sont pas moins des vertus qui lui font honneur. Nous avons tous une même règle de conduite à suivre, mais nous n'avons pas tous des forces égales pour fournir notre carrière. L'essentiel est de faire ce qui est en notre pouvoir, et nous sommes à l'abri des reproches. Cependant, il y a quelque chose de trop mystérieux dans tout ce que vous avez vu et entendu de cet homme pour que je me permette de juger mal de son caractère, qui d'ailleurs ne m'est pas assez connu. Il faut toujours tâcher d'interpréter en bien les cas douteux. C'est un précepte fondé sur les liens de la société et sur les lois de l'humanité. Vous remarquerez également, ma chère Evelina, que vos recherches au sujet de cet étranger doivent avoir des bornes. Il y aurait de l'indiscrétion à les pousser trop loin. Je ne saurais vous exprimer, au reste, toute l'indignation que m'a inspirée la conduite de Sir Clément Willoughby. Son insolence insupportable et les soupçons odieux qu'il a osé former contre votre vertu m'ont irrité à un degré de violence dont mes passions usées ne me paraissaient plus susceptibles. Il faut absolument rompre toute liaison avec lui. La douceur de votre caractère l'a flatté jusqu'ici d'une entière impunité. Mais sa conduite autorise et même exige votre ressentiment. Ne balancez pas à lui défendre votre porte. Les Branton, M. Smith et le jeune Brown sont trop au-dessous de vous pour qu'ils puissent vous donner un plaisir réel. Seulement, je suis fâchée que mon Evelina passe son temps en aussi mauvaise société. Le jour même où ce mois fatal expirera, j'enverrai Madame Clinton à Londres pour vous ramener à Howard Grove. J'espère que votre séjour chez Madame Mirvan ne sera pas de longue durée, car je suis dans la plus grande impatience de revoir et d'embrasser mon enfant chéri. Arthur Villars. Lettre 50. Evelina à Monsieur Villars. Holborn, 27 juin. Je viens de recevoir, monsieur, le présent gracieux que vous m'avez fait et la lettre, plus gracieuse encore, dont il était accompagné. Jamais orpheline n'a été moins à plaindre que votre Evelina. Sans mère, et je dirais presque sans père, ou plus malheureuse que si je n'en avais point, privée depuis mon enfance des deux premières consolations de la vie, ai-je jamais eu sujet de pleurer mes pertes ? Cette tendresse, cette indulgence et les soins qu'on attend de ses parents m'ont-ils jamais manqué ? Ah, que ne sont-ce là les seules raisons que j'ai eues pour donner des regrets à ceux dont je tiens le jour ? J'accepte, monsieur, avec reconnaissance, la marque généreuse de votre approbation et je m'appliquerai à remployer d'une manière qui ne soit pas indigne de la confiance que vous me témoignez. Vos doutes à l'égard de M. McCartney m'embarrassent un peu. Il n'a pas l'air d'un homme devenu malheureux par sa faute. Mais avant que de quitter Londres, j'espère de mieux connaître sa véritable situation. Et lorsque j'aurai des preuves plus certaines du mérite que je lui suppose, je prendrai la liberté de le recommander à vos bontés. Je suis prête à renoncer, autant qu'il dépendra de moi, à mes relations avec Sir Clément Willoughby. Mais, monsieur, suis-je bien la maîtresse de lui défendre ma porte ? Miss Mirvan me marque qu'il est arrivé à Howard Grove, qu'il a ramené la gaieté dans le château et qu'il est toujours l'ami de cœur du capitaine. Quant à moi, j'ai passé assez tranquillement mon temps depuis la dernière lettre que je vous ai écrite. Un gros rhume a obligé Madame Duval à garder la chambre et le mauvais temps m'a empêché de voir les Brampton. Le fils est venu faire deux ou trois visites pendant lesquelles il s'est conduit, s'il est possible, encore plus ridiculement que de coutume. Il parle peu, sans faire presque la moindre attention à Madame Duval, et il me regarde sans cesse en ricanant. Quelquefois, il s'approche de moi avec la mine d'un homme qui a un secret important à me révéler. Puis il s'arrête tout court et me rit au nez. « Oh, quels gens ! Heureux le moment où je verrai arriver notre bonne Madame Clinton !» 29 juin. Hier matin, M. Smith a passé ici pour nous avertir que le bal de Hampstead aurait lieu le soir. Il offrit un billet à Madame Duval et un autre à moi. Je le remerciai de sa politesse, mais je lui fis remarquer qu'il avait oublié bien vite que je n'avais nulle envie d'être de cette fête. « Bon Dieu, madame, qui aurait pu s'imaginer que c'était sérieusement ? Venez joliment et ne faites pas la revêche. Votre grand-maman vous veillera de près et vous n'aurez rien à risquer. Plus de prétextes, je vous prie, quand les billets sont achetés. Monsieur, si votre intention était de me les présenter sans me laisser la liberté de vous en remercier, j'avoue que je vous en aurai moins d'obligations. Vous êtes bien mordante, madame, et il n'y a pas moyen de vous parler. Tenez, votre grand-maman vous en fera la proposition, et alors, j'en suis sûre, vous serez moins cruelle. » Madame Duval fut prompte à se déclarer en faveur de M. Smith. Elle me pressa de laisser là mes difficultés et d'accepter l'invitation puisqu'elle était résolue de m'accompagner. Je lui fis des représentations, mais qui ne furent point écoutées. M. Smith lui remit les billets et m'annonça d'un ton triomphant qu'il reviendrait de bonne heure. Je fus très fâchée d'être forcée à contracter une espèce d'obligation envers un jeune homme aussi présomptueux que M. Smith. Mais je pris d'abord la résolution de ne pas danser avec lui, quelque choqué qu'il pût être de mon refus. Il revint dans l'après-dîner, après avoir épuisé toutes ses ressources pour attirer mon admiration. Sa toilette était recherchée, quoique sans goût, mais l'air gêné que lui donnait une parure à laquelle il n'était point accoutumé et son affectation perpétuelle à jouer l'homme de condition formaient un contraste ridicule avec ses manières grossières. Et malgré tous ses efforts, il était très éloigné de faire ce qu'on appelle « bonne figure ». Le jeune Brampton et sa sœur vinrent prendre le thé avec nous. Cette dernière ne put cacher l'émotion que lui causa la vue de M. Smith. Je m'étais proposé de concerter avec elle les moyens de rompre la partie du bal. Mais son humeur intraitable a dérangé ce projet. Elle mesura des yeux M. Smith. Et après m'avoir gratifié d'un regard très mécontent, elle alla bouder dans une croisée, répondant à peine aux questions de Madame Duval et me tournant le dos chaque fois que j'essayais de lui parler. La vanité de M. Smith jouissait véritablement du trouble de Miss Brampton et il n'eut pas seulement la discrétion de déguiser le plaisir qu'il y prenait. Enfin, le jeune Brampton entama la conversation. « Vous voilà tous, nous dit-il, tirés à quatre épingles. Où comptez-vous donc aller ?»« M. Smith, au bal de Hampstead. » Monsieur Brampton. Au bal ? Ha ha ! Ma tante va au bal ? Madame Duval. Oui, au bal. Je ne vois pas ce qui pourrait m'en empêcher. Monsieur Brampton. Et danserez-vous aussi, ma tante ? Madame Duval. Et pourquoi non ? Mais en tout cas, ce ne sont pas vos affaires. Monsieur Brampton. Peste ! Je voudrais être aussi de ce bal, ne fût-ce que pour voir danser ma tante. Mais la question sera de trouver un cavalier. Madame Duval, vous êtes le plus insolent drôle que j'ai jamais vu et je vous promets que je m'en plaindrai à votre père. Monsieur Brampton, et de quoi vous mettez-vous en colère, ma tante ? Vous vous emportez pour un rien et vous ne faites que gronder précisément comme mes sœurs. » Miss Branton. « Parlez pour vous, mon frère, et laissez mon nom hors du jeu. »
Monsieur Branton.
« Bon, ne voilà-t-il pas déjà qu'est ce gendarme ? Il n'y a rien de tel pour les femmes que la dispute. C'est leur combat favori. »
Monsieur Smith.
« Fi donc, monsieur Branton, vous vous oubliez. M'avez-vous jamais entendu parler aux dames avec si peu d'égard ?»
Monsieur Branton.
« Eh, que m'importe ! Vous êtes un petit maître et moi pas. Et puisque vous vantez tant votre politesse, vous trouverez de quoi l'exercer en vous donnant pour danseur à ma tante. Eh, cela serait une bonne scène. »
Madame Duval.
« Bonne ou mauvaise, vous n'en verrez rien. Tout ce que je puis vous conseiller, c'est d'épargner vos plaisanteries que je goûte fort peu. D'ailleurs, que je dansasse avec Monsieur Smith, il n'y aurait pas là de quoi crier au miracle. »
Monsieur Smith.
« Je croyais, madame, que vous joueriez aux cartes et que j'aurais l'honneur de danser avec mademoiselle. »
Je saisis volontiers cette occasion pour lui déclarer que je ne danserai pas du tout.
Miss Branton. « Pas danser du tout ? Oui, c'est à peu près dans ce dessin qu'on va au bal ordinairement. »
Monsieur Branton.
« Bon, tenez ferme, cousine. Monsieur Smith sera obligé de se contenter de ma tante, comme il sera capot. »
Monsieur Smith.
« Oh, je gage que mademoiselle changera d'idée. Elle ne m'échappera pas. » « Vous vous trompez, monsieur, interrompis-je, et permettez que je vous désabuse. Ma résolution est prise et j'y demeurerai ferme, comptez là-dessus. »
Miss Branton.
« C'est donc une folie que d'aller au bal. Qui prétendez-vous faire ? » ?»«
Je n'y vais que pour complaire à madame Duval. »
Monsieur Branton. « Ma sœur voudrait bien être à votre place. Il y a déjà longtemps qu'elle fait les yeux doux à monsieur Smith. »
Miss Branton.
« Comment, vous osez ? Votre impudence mériterait un bon soufflet. »
Monsieur Smith.
« Ah, ceci va trop loin, monsieur Tom. Il ne faut jamais trahir les secrets des dames. Laissez-le parler, Miss Biddy. Il ne sait ce qu'il dit. »
Monsieur Branton.
« Cependant, je suis sûr que Bid donnerait le bout de son petit doigt pour être à ce bal. » Mais M. Smith préfère la cousine, et en cela, tout le monde sera de son avis. Pendant que Miss Branton ripostait aux sorties de son frère par une réponse des plus vives, M. Smith me dit à l'oreille « Comment pouvez-vous, madame, avoir assez de cruauté pour être plus belle que vos cousines ? Peut-on en effet les regarder en votre présence ?»« Ne croyez pas ce qu'ils vous comptent, » s'écria le jeune Branton. C'est un méchant homme et je vous réponds qu'il ne vous épousera point, car il m'a protesté plus d'une fois qu'il ne se marierait jamais. D'ailleurs, s'il en avait eu envie, Bide l'aurait soufflé il y a longtemps et l'aurait remercié par-dessus le marché.
« Allons, Tom, reprit M. Smith, point d'indiscrétion, vous me mettez mal avec ces dames. Cependant, si jamais je me mariais, ce serait avec votre cousine. »
« Ce serait. Et que pensez-vous, monsieur, de ce ton de hardiesse ? Un regard d'indignation fut toute ma réponse et je me retirai à l'autre bout de la chambre. Bientôt après, M. Smith envoya chercher une remise. Je m'approchai de Miss Branton pour lui dire adieu. Mais elle ne daigna pas me répondre. Elle s'imagine sans doute que j'ai été au-devant des prétendues politesses de ce fat. Que ne sait-elle combien je désirerais d'en être dispensée ? Le bal se donnait à Hampstead dans un appartement qu'on appelle la salle longue. Cette épithète lui convient parfaitement, car sa longueur est la seule chose qui le distingue. Madame Duval ayant engagé M. Smith pour les deux premières danses, je fus quitte pendant quelque temps de ses importunités. On voyait bien qu'il se serait passé volontiers de cet honneur. Mais Madame Duval ne démord pas aisément, et M. Smith fut obligé de lui donner la main. Je fus fort surprise quand je lui entendis dire qu'elle voulait danser le menuet. C'était s'exposer ouvertement. Elle fut même embarrassée d'en faire la proposition. Monsieur Smith l'adressa au maître des cérémonies. Elle accepta le premier venu qui se présenta, et pendant la danse, je me crus trop heureuse de n'être point connue de ceux qui m'entouraient. Elle s'en acquitta, on ne peut pas plus mal. Et son âge, son ajustement brillant et la quantité de rouge qu'elle avait mis lui attirèrent les regards et je crois bien aussi les railleries de toute l'assemblée. M.
M. Smith eut l'incivilité de se moquer publiquement d'elle et de la couvrir de ridicule de son mieux. Il se tourna ensuite vers moi pour me dire combien il enrageait d'avoir été forcé de danser avec Mme Duval. Je fis peu d'attention à ses propos et je lui dis qu'il me convenait moins qu'à tout autre d'écouter des plaintes de cette nature. Lorsqu'elle vint nous retrouver, elle me déconcerta infiniment en me demandant comment j'avais trouvé son menuet. Je lui répondis en termes polis, mais la froideur de mon compliment parut lui déplaire. Elle appela M. Smith pour danser une contredanse et ils s'en allèrent joindre les rangs. M. Smith s'avisa de me dire, avant que de partir, qu'il mourait de honte si quelqu'un de ses connaissances le voyait danser avec une vieille femme. Je jouis de nouveau de quelques moments de tranquillité. Mais ce bonheur ne dura pas longtemps. Un jeune écervelet vint me demander la faveur d'une danse. Sur mon refus, il devint si importun que j'eus besoin de tout mon sérieux pour me débarrasser de lui. La même proposition me fut répétée par plusieurs jeunes gens dont l'extérieur et le langage me firent mal augurer de leur éducation et de leurs mœurs. Ma situation était très désagréable. J'étais restée seule et cette circonstance n'était guère propre à tenir ces messieurs en respect. Je fis tout ce que je pus pour écarter les soupçons qu'on aurait pu former. Et pour mieux réussir, je pris un air de fierté et de gravité qui en imposait à tout le monde et qui vous aurait sûrement amusé, monsieur. Je n'eus pas trop sujet de me réjouir du retour de ma société. M. Smith recommença ses instances pour m'engager à danser avec lui et Mme Duval m'annonça qu'elle allait se mettre en jeu et dès qu'elle eut arrangé sa partie, elle nous quitta. Je ne vous rapporterai point la suite de notre entretien. M. Smith me tourmenta au point que, lasse de lui faire résistance, j'aurais cédé infailliblement à ses prières si je ne m'étais rappelé heureusement l'aventure de M. Lovell. Je pris donc le parti d'informer mon persécuteur qu'il ne tenait plus à moi de le satisfaire, puisque j'avais déjà refusé plusieurs messieurs en son absence. Cet aveu le mit de fort mauvaise humeur et il jugea à propos de me faire des reproches sur ce que je n'avais pas dit à ceux qui m'avaient demandé que j'étais déjà engagé. L'indifférence totale avec laquelle je l'écoutais lui fit changer de conversation. En effet, je ne pus guère m'empêcher de me laisser aller à des distractions. Je n'étais occupé dans ce moment que du souvenir des deux bals auxquels j'avais assisté précédemment. Ma coterie, la conversation, l'assemblée, oh, quel contraste prodigieux! Bientôt, il réussit à réveiller mon attention par son extrême impertinence. Il osa me parler de ce qu'il appelait l'admiration que je lui inspirais, et il en vint à des explications si familières que je me crus autorisé à lui témoigner mon mécontentement dans des termes les moins équivoques. Mais quelle fut ma surprise quand je remarquai que cet homme n'attribuait mon ressentiment qu'au doute que je pouvais avoir de la sincérité de ses propositions. « Soyez moins prompte, me dit-il, ma chère dame, mes vues sont honnêtes, je vous le proteste. » Pouvez-vous exiger qu'on se décide tout d'un coup pour une chose aussi sérieuse que le mariage? Perdre sa liberté, se couvrir de ridicule aux yeux de ses amis, en vérité, ce n'est pas une bagatelle. Jamais femme avant vous n'a pu me faire envisager l'état du mariage comme supportable. Il m'a toujours paru un vrai enfer. Votre opinion, monsieur, sur ce sujet ne m'intéresse guère, je vous l'avoue. Et ce serait perdre le temps très inutilement que de discuter cette matière avec vous. Vous êtes un peu trop vive, madame. Qu'une femme aime l'état du mariage, cela est naturel. Mais il n'en est pas de même de nous autres hommes. Mettez-vous, par exemple, à ma place. Figurez-vous que j'ai toujours vécu dans un cercle d'amis qui m'ont connu jusqu'ici des sentiments très différents de ceux que je dois adopter aujourd'hui. « Eh bien, madame, croyez-vous qu'il soit si aisé que je tende après cela les mains aux chaînes du mariage ?» Un raisonnement aussi sot et aussi arrogant ne méritait point de réponse. Sans parler de Miss Biddy, que je n'aurais pas seulement citée sans l'indiscrétion de son frère, vous pouvez être persuadée, madame, qu'on m'a déjà proposé plusieurs partis avantageux. Il n'en est point dans ce grand nombre auquel je me sois donné la peine de penser deux fois. Vous seul avez réussi à me mettre dans vos fers. Cette victoire ne vous chatouille-t-elle pas un peu ? « Monsieur, lui répondis-je, vous vous trompez grossièrement si vous imaginez que votre confidence m'inspire le moindre orgueil. Loin de là, vous me permettrez de vous dire que je me croirais infiniment humilié en vous écoutant davantage. » En même temps, je le laissai pour passer le reste de la soirée à côté de Madame Duval. Elle plaignit beaucoup mon ignorance quand elle apprit que j'avais refusé ceux qui m'avaient demandé à danser. Le ton orgueilleux que je me suis permis envers M. Smith est tout à fait nouveau pour moi. Mais il était nécessaire. Pouvais-je souffrir que cet homme me crût entièrement à sa disposition? Le parti que j'avais pris me procura du moins quelque repos. M. Smith cessa ses importunités et même il ne me parla plus de la soirée, sinon qu'en partant il me dit d'un air piqué « Une autre fois, quand je prendrai des billets pour une demoiselle, je ferai mes conditions d'avance pour qu'elle ne me cède pas à sa grand-mère. » C'est ainsi que finit cette partie si longtemps projetée, dont je m'étais promis tout l'ennui qu'elle m'a effectivement donné. Lettre 51. Suite de la lettre d'Evelina. Je viens de recevoir de la part de M. McCartney une lettre des plus intéressantes et je vous l'adresse, mon cher monsieur, persuadé que la lecture vous en fera plaisir. J'ai lieu plus que jamais de me réjouir de ce que j'ai fait pour cet étranger. Monsieur McCartney à Misenville. Madame, permettez que l'étranger infortuné que vous avez retiré avec tant de générosité du bord du précipice vienne, pénétré du sentiment de la plus parfaite reconnaissance, vous offrir, madame, ces très humbles actions de grâce et vous demander pardon de l'effroi qu'il vous a causé. Vous m'ordonnez de vivre. Je le puis maintenant, car je ne suis plus pressé de quitter le monde depuis que votre cœur compatissant a daigné soulager ma misère, depuis que j'ai la persuasion de ne plus être confondu dans la foule des malheureux. La bonté avec laquelle vous vous êtes intéressé à ma situation me donne lieu de croire que peut-être vous ne seriez point fâchée, madame, d'être informée des motifs qui m'ont conduite au coup désespéré que votre présence a détourné, je dirais presque par miracle. Je vous dois le récit de mes malheurs. Mais comme les détails dans lesquels je vais entrer pourraient révéler des secrets importants, je vous supplie de les regarder comme sacrés, malgré la précaution que j'ai prise de ne nommer personne. Je suis née en Écosse, où j'ai été élevée par les soins d'une mère, anglaise d'origine, et qui n'avait point de parents dans ma patrie. Je fus l'objet de toute sa tendresse. Elle me disait souvent que la vie retirée que nous menions et notre éloignement de sa famille provenaient d'une mélancolie invincible dans laquelle elle avait jeté le décès de mon père, mort subitement peu de temps avant ma naissance. J'ai fait des études à Aberdeen, où je me liais d'amitié avec un jeune homme fort riche, liaison que j'envisageais comme le premier bonheur de ma vie et qui devinrent pour moi une source de chagrin. Mon ami, étant sur le point de quitter l'académie, se disposa à voyager et il fallut nous séparer. J'étais destinée à l'église et je n'avais d'autre fortune que celle que je pouvais acquérir par mes talents. Je n'osais donc pas même formuler le projet de l'accompagner. Il est vrai qu'il se serait fait un plaisir de me défrayer. Mais un pareil arrangement ne s'accommodait guère avec mes principes. J'attachais trop de prix à l'amitié pour en ravaler la dignité par des obligations pécuniaires. Nous entretîmes pendant 2 ans une correspondance suivie, dans laquelle nous nous confiâmes tous nos secrets. Mon ami, ayant achevé ses courses, m'écrivit de Lyon qu'il allait retourner en Angleterre et me pressa de venir le joindre à Paris, où il se proposait de faire quelques séjours. Le désir de le revoir après une si longue absence m'engagea à solliciter le consentement de ma mère. Elle eut l'indulgence de souscrire à ma demande. Elle parvint à fournir aux frais de mon voyage et je partis pour la France. Le moment où j'embrassai cet ami de cœur fut le plus heureux de ma vie. Il m'introduisit dans plusieurs bonnes maisons et les 6 semaines que j'avais destinées à mon absence étaient écoulées sans que je m'en fusse aperçu. Je dois avouer cependant que la société de mon ami n'était pas le seul sujet de ma félicité. Je fis la connaissance d'une demoiselle, fille d'un Anglais de distinction, et je pris avec elle des engagements dont je lui jurai 1000 fois l'éternelle durée. Elle sortait justement du couvent où elle avait été mise fort jeune. Et, quoique née en Angleterre, elle ne parlait pas même la langue de son pays. Sa figure et son caractère étaient également aimables. Mais ce qui me la rendit surtout infiniment chère, ce fut la générosité avec laquelle elle s'offrit à renoncer en ma faveur aux plus belles espérances. Le moment de mon départ étant arrivé, l'idée terrible de quitter l'objet de ma tendresse m'affligeait nuit et jour. Je n'eus pas le courage d'informer son père de nos liaisons. Il pouvait se flatter raisonnablement de procurer à sa fille un établissement avantageux et il n'aurait pas manqué de rejeter avec mépris l'offre de ma main. En attendant, je conservais un libre accès dans la maison. Ma maîtresse y était confiée à la direction d'une vieille gouvernante que j'avais réussi à mettre dans mes intérêts. Enfin, un jour que son père était sorti, il rentra l'après-dîner au moment où nous y pensions le moins. Et c'est l'époque de la misère à laquelle j'ai été depuis en proie. Il avait vraisemblablement écouté notre conversation, car il se jeta dans la chambre en furieux. Mais quelle fut la scène qui suivit ? Honteux de mes complots clandestins, convaincu de mes torts, il me fallut endurer les reproches les plus insultants. À la fin, pourtant, ses emportements lassèrent ma patience. Il me donna les épithètes de gueux, de lâche écossais. Je pris feu à ces mots et je tirai l'épée. Lui, tout aussi alerte que moi, se mit en défense. Je n'avais point affaire à un vieillard, mais à un homme dans toute la vigueur de l'âge et capable de me tenir tête. En vain sa fille implora sa clémence, en vain tâchai-je de réprimer ma colère pour le calmer. Il continua ses reproches. Ma personne, ma patrie, furent chargées d'opprobres et d'ignominies. Je ne pus plus contenir ma rage. Nous nous battîmes et je le blessai dangereusement. J'étais au désespoir de ce qui venait d'arriver. La jeune demoiselle s'évanouit. La duègne, attirée par le bruit, me pressa de prendre la fuite et promit de m'informer des suites de cet événement. Le tumulte qui s'éleva dans la maison m'avertit que je n'avais plus de temps à perdre. Je m'éclipsai, agité d'un trouble inexprimable. Il était impossible que cette aventure demeurât cachée. J'en fis la confidence à mon ami. Vers minuit, la duègne vint me rapporter que son maître était en vie et que l'évanouissement de sa jeune maîtresse n'avait point eu de suite. Mon éloignement devint une nécessité absolue. La duègne promit d'informer mon ami de la tournure que cette fâcheuse affaire pourrait prendre et elle s'engagea de me faire parvenir les lettres par son canal. Dans ces circonstances, je quittai Paris. Les soins de mon ami favorisèrent mon départ et j'arrivai en Écosse. J'aurais préféré de m'arrêter en chemin pour être plus à portée de recevoir les nouvelles qui m'intéressaient. Mais le mauvais état de mes finances me priva de cette satisfaction. Ma situation déplorable n'échappa point à la pénétration de ma mère. Elle insista pour savoir les motifs de mon chagrin. Je ne pus me refuser à ses instances et je lui fis un récit fidèle de tout ce qui s'était passé. Elle m'écouta avec une émotion visible. Je lui nommai les personnes et son effroi augmenta. Enfin, quand j'arrivai à la catastrophe, quand je lui dis que j'avais renversé mon adversaire, elle s'écria « Ah, mon fils, vous avez tué votre père !» Et dans le même instant, elle tomba sans connaissance à mes pieds. « Je n'essaierai point, madame, d'achever ce tableau cruel. Un cœur tel que le vôtre me dispensera aisément d'une tâche si pénible. » Dès que ma mère eut repris l'usage de ses sens, elle me raconta des événements qu'elle avait espéré me couvrir à jamais d'un voile impénétrable. Hélas, ce n'était point la mort qui lui avait enlevé mon père. Lié avec elle par les seuls liens de l'honneur, il avait abandonné. Notre établissement en Écosse n'était point l'effet du choix de ma mère, elle y avait été reléguée par une famille justement irritée. Pardonnez, madame, si j'abrège cette narration. Je succombai sous le poids de ma misère et je passai une semaine entière dans un délire perpétuel. Ma mère était encore plus à plaindre que moi. Elle ne mit point de frein à sa douleur, se reprochant sans cesse le danger auquel sa trop grande réserve m'avait exposé. Après bien des efforts, je repris une assiette un peu plus tranquille. Mais ce repos fut bientôt troublé par d'autres inquiétudes. Je ne recevais point de lettres de Paris. Et quoique ce retard pût être causé par les vents contraires, il me paraissait insupportable. 20 fois je fus sur le point de retourner en France à tout hasard. Enfin, il arriva une malle qui me remit plusieurs lettres à la fois. Elles m'apportèrent des nouvelles capables de diminuer du moins mes chagrins les plus accablants. J'appris que je n'avais pas consommé l'horreur du parricide, que mon père était en vie. Dès que sa guérison serait achevée, il se proposait de faire un voyage en Angleterre pour y conduire ma malheureuse sœur, qui devait se retirer chez une de ses tantes. Je résolus aussitôt d'aller au-devant d'eux à Londres, de révéler à mon père irrité le secret de cette terrible aventure, et de le convaincre par là qu'il n'avait plus rien à craindre du choix fatal de sa fille. Ma mère goûta ce projet et me munit d'une lettre qui attestait la vérité de mes assertions. Comme je n'avais pas le moyen de fournir largement aux frais du voyage, je fis ma route de la manière la moins coûteuse. Je me logeai dans un petit réduit que vous avez eu l'occasion de voir, madame, et je me mis en pension chez mes hôtes. C'est ici que je languissais dans l'attente de ma famille. Mes espérances furent trompées et je compris que j'avais fait une nouvelle imprudence en quittant aussi brusquement l'Écosse. Mon père était retombé malade après avoir été guéri de sa blessure et au bout de 6 semaines, j'appris par une lettre de mon ami que le voyage avait été différé pour quelque temps. Mes finances étaient presque épuisées et je me vis obligé, malgré moi, de recourir encore à ma mère pour la prier de m'aider à retourner en Écosse. Hélas, la réponse que je reçus n'était point de sa main. Une dame qui, pendant plusieurs années, avait été sa compagne, m'écrivit que son amie avait été attaquée d'une fièvre maligne et que nous avions eu le malheur de la perdre. Vous jugerez aisément, madame, de l'impression que devait produire sur moi tant de cours doublés. La dame dont je vous parle m'adressait une lettre que ma mère avait écrite pendant sa maladie, avec beaucoup de difficultés, à un de nos proches parents. Elle y dépeignait ma situation avec une tendresse vraiment maternelle et elle suppliait ce parent d'employer ses bons offices pour me procurer une place. Mais j'étais tellement abattue sous le poids de mes malheurs que je laissai écouler plus de 15 jours sans penser à remettre la lettre à son adresse. J'y fus contraint par nécessité. Je me pourvus d'un habit de deuil afin de paraître décemment. Je me mis en devoir de chercher mon parent. On me dit qu'il était hors de ville. Dans cet état désespéré, mon orgueil, qui jusqu'ici s'était roidi contre l'adversité, commença à plier et je me décidai à réclamer les secours de l'ami qui m'avait offert 1000 fois ses services. Je les avais toujours rejetés et même dans ma triste situation, j'attendis encore une semaine entière avant que de me résoudre à lui envoyer une lettre que je regardais comme le tombeau de mon indépendance, tant il est difficile de se défaire des principes ou, si vous voulez, des préjugés qu'on a une fois contractés. Enfin, réduite à mon dernier escalin, harcelée de la manière la plus insolente par mes hôtes, mourant presque de faim, je cachetai ma lettre et je sortis pour la mettre à la poste. Mais M. Branton et son fils m'assaillirent dans leur boutique. Ils m'insultèrent grossièrement, me menacèrent de me jeter en prison si je ne les satisfaisais incessamment. Leur dureté me perça le cœur. Je les priai de prendre patience jusqu'au lendemain et je les quittai dans un accablement difficile à exprimer. Je réfléchis alors que ma lettre arriverait trop tard pour me sauver de l'ignominie dont j'étais menacé. Je la déchirai et à peine pus-je prendre sur moi de prolonger d'une minute ma malheureuse existence. Dans le désordre de mon esprit, je conçus l'horrible dessein de faire le métier de voleur de grand chemin. Je retournai au logis pour travailler à l'exécution de ce projet. Je ramassai celles de mes nippes dont je pouvais me passer le plus aisément, je les vendis et j'achetai, de l'argent que j'en tirai, une paire de pistolets, de la poudre et des balles. Mon intention n'était pas cependant d'employer ces armes contre les passants que je me proposais d'attaquer. Je ne voulais m'en servir que pour les effrayer ou même pour me délivrer d'une punition infamante au cas que j'eusse le malheur d'être arrêté. Mon intention était de me procurer l'argent nécessaire pour payer M. Branton et pour retourner en Écosse. Après quoi, je me flattais de découvrir, par les papiers publics, les personnes que j'aurais dépouillées et de leur restituer ce que je pourrais leur avoir enlevé. Projet également horrible et insensé. Incapable de commettre une bassesse, je n'envisageais qu'en tremblant l'exécution de mon plan. Je me soutenais à peine en rentrant chez moi. Les Branton ne s'aperçurent point de mon trouble. Je termine ici mon récit. Vous savez, madame, mieux que moi, ce qui s'est passé dans la suite. Mais pourrais-je jamais oublier ce moment où, prêt à commettre le crime, je disposais ces armes qui étaient destinées ou à ravir le bien d'autrui ou à me donner la mort, vous vous précipitâtes dans ma chambre pour retenir mon bras. Ce moment était auguste. Le doigt de la Providence semblait me séparer encore de l'éternité. Vous me parûtes un ange descendu des cieux. Mon désordre, et s'il m'est permis de l'ajouter, la beauté éclatante de votre figure contribuèrent à rendre l'illusion complète. Maintenant, madame, après m'être acquitté de la tâche qui m'était imposée envers vous, il m'en reste une à remplir qui me dédommagera de ce que la première a de pénible. C'est de vous remercier, autant que je le puis, de votre bienfait généreux. Soyez sûr que j'en ferai un bon usage. Vous avez dessillé mes yeux. Je reconnais le faux orgueil qui m'a guidé jusqu'ici. À quel excès ne m'a-t-il point conduit? Je méprisais les secours d'un ami, tandis que j'étais résolu de recourir aux moyens les plus déshonorants pour en extorquer d'un inconnu, au risque de le réduire par là à une situation aussi misérable que la mienne. Et dans le moment même où vous m'offrîtes vos bienfaits, quel combat cruel n'eus-je pas à soutenir avant que de me résoudre à les accepter? Tels sont les sentiments avec lesquels je reçus vos dons. J'ai remis entre les mains de M. Branton une bague que je tiens d'une mère, dont le souvenir m'est infiniment cher. Ce bijou garantit le montant de ma dette. Le présent que vous m'avez fait, madame, suffira pour mon entretien jusqu'à ce que je reçoive des nouvelles de mon ami auquel je viens d'écrire. Le parent que j'attends ici ne saurait, d'ailleurs, différer son retour de longtemps. Il y aurait de l'extravagance à vous dire, madame, que j'acquitterai jamais la dette que j'ai contractée envers vous. Je n'en suis point capable. Le service que vous m'avez rendu est de nature à rendre toute rétribution impossible. C'est par vous que j'ai repris l'usage de ma raison. Vous m'avez appris à vaincre ces passions qui me l'avaient ôtée. Et si, dorénavant, je ne puis point éviter les calamités, je saurai du moins les supporter en homme. Ma gratitude pour vos bontés sera sans bornes, mais permettez en même temps que j'envisage comme une avance l'argent que vous m'avez remis et que je m'engage de vous restituer quand je le pourrai. Je suis, madame, avec le plus profond respect et une entière reconnaissance, etc., J. McCartney. Lettre 52. Continuation de la lettre d'Evelina. Holborn, 1er juillet, à 5h du matin. J'ai à vous rendre compte, mon cher monsieur, d'une aventure qui a occupé mon esprit pendant toute la nuit, et je me lève de grand matin pour vous en entretenir. On était convenu hier que nous passerions la soirée dans les jardins de Marybone, où M. Torré, un célèbre étranger, devait tirer un feu d'artifice. Madame Duval, les Branton, M. Dubois, M. Smith, M. Brown et moi composions la partie. Nous arrivâmes des premiers, M. Branton ayant déclaré qu'il voulait bien voir pour son argent et se dédommager de son mieux d'une dépense aussi frivole. Notre société s'était dispersée en chemin. M. Brown et Miss Polly ouvrirent la marche. M. Smith avait donné le bras à Miss Branton et semblait s'être proposé de se venger de mes refus du bal, car il réserva pour sa moitié toutes les attentions qu'il m'avait témoignées ci-devant. Miss Branton parut jouir de son triomphe et se tourna souvent en arrière pour voir si je faisais attention à l'heureuse intelligence qui subsistait entre elle et M. Smith. M. Dubois accompagna Madame Duval. M. Branton marcha seul, mais son fils s'appliqua avec d'autant plus d'assiduité à me rendre ses soins et il me pressa beaucoup d'accepter son bras. Je le remerciai et je restai à côté de Madame Duval. Le soi-disant jardin de Marybone ne se distingue ni par sa magnificence ni par sa beauté. Nous y mourions tous d'ennui et j'attendis avec impatience le moment où la musique devait commencer. On vint nous avertir que l'orchestre était prêt. Un certain M. Battlemont joua un concert de violon avec autant d'habileté que de goût. Le feu d'artifice étant sur le point d'être exécuté, nous courûmes en avant pour nous assurer de bonnes places. Mais la foule était si grande que M. Smith nous conseilla de demander un banc pour nous y tenir debout. Nous en fûmes effectivement pourvus et nos messieurs nous quittèrent tous en promettant de venir nous rejoindre dès que le spectacle serait fini. Le feu d'artifice était d'une grande beauté. Il représentait l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Mais à l'endroit où, par un regard fatal, les deux amants sont de nouveau séparés, il se fit une si violente explosion que nous descendîmes toutes du banc pour reculer de quelques pas, la quantité d'étincelles qui nous entourait nous faisant craindre un accident. Je m'étais malheureusement écarté un peu trop loin et je ne m'en aperçus que lorsqu'un inconnu me dit « Venez avec moi, mon enfant, je prendrai bien soin de vous. » Ne retrouvant personne de ma société, je me sauvai en diligence vers l'endroit que je venais de quitter. Le banc était occupé par des gens que je ne connaissais point. Je me vis seul et abandonné au milieu de la foule, je courus de tous côtés sans savoir quel parti prendre. À tout moment, j'étais accosté par quelque insolent qui se croyait autorisé, par mon embarras, à me lancer ses mauvaises plaisanteries ou à me tenir des propos doucereux également choquants. Un jeune officier, entre autres, eut la hardiesse de me prendre par la main en me disant « Vous êtes jolie, ma petite, et je vous engage dans ma compagnie. » Je m'arrachai d'entre ses bras et me réfugiai vers deux dames qui passaient dans ce moment. Je les suppliai de m'accorder leur protection. Elles me reçurent avec un grand éclat de rire. « Venez parmi nous, » me répondirent-elles, et elles prirent mes deux bras. « D'où peut-vous venir une telle frayeur ? » continuèrent-elles d'un ton ironique. Je leur racontai ingénument ce qui venait de m'arriver et je les priai de m'aider à chercher mes amis. « Oh, vous n'en manquerez pas, ma chère, tant que vous serez avec nous. » Je les assurai que les miens reconnaîtraient obligeamment les services qu'elles voudraient bien me rendre. « Mais, monsieur, je ne tardais pas à me convaincre dans quelles mains j'étais tombée. Les éclats perpétuels de ces femmes, leurs conversations, leurs manières, tout me prouva que je n'avais à attendre d'elles qu'insultes et déshonneurs. Jugez de ma situation. » Je guettais le moment où je pourrais échapper à ces deux méchantes créatures. Elles me firent mille questions, qui j'étais, d'où je venais, etc. Je leur fis des réponses vagues. Mais quelle fut ma consternation quand je vis arriver Mylord Orville qui s'avançait vers nous. Je ne saurais vous exprimer tout ce que je sentis dans ce moment. Quand même j'aurais eu le malheur d'être tombée dans l'état de dégradation que mes compagnes pouvaient faire soupçonner, j'en aurais pu sentir davantage ma honte. Heureusement, le lord passa outre sans faire attention à nous. Je crus cependant remarquer qu'il jeta un coup d'œil de notre côté. L'une de ces femmes me demanda si je connaissais ce jeune homme. Je lui dis que non, pour éviter toute explication. Quelques minutes après, j'entendis, à ma grande satisfaction, la voix de M. Brankton. « Dieu soit loué, m'écriai-je, voici quelqu'un de notre parti. » Et aussitôt, je le joignis pour prendre son bras. Je remerciai les deux femmes de leur politesse et leur fis entendre que je ne prétendais pas les incommoder davantage. Dans le même moment, je rencontrai Mme Duval et les demoiselles Brankton, qui toutes étaient fort curieuses de savoir ce que j'étais devenue. Je leur promis que nous en parlerions une autre fois. Il m'importait d'écarter ces deux femmes qui continuèrent toujours à prêter une attention indiscrète à notre conversation. Elles eurent même la hardiesse de nous proposer d'être des nôtres. Personne ne les refusa et je n'osais rien dire moi-même. Il me fallut de nouveau consentir à m'associer avec elles. Comme si tout avait conspiré à me couvrir de confusion, le hasard voulut que nous rencontrassions encore le lord Orville. Cette fois, il m'aperçut. Sa présence fut un coup de foudre pour moi. Je n'avais pas le courage de le regarder en face. Il s'approcha de moi et nous nous arrêtâmes tous. Il eut la bonté de me saluer et il me fixa d'une manière qui exprimait assez sa surprise. Je crus cependant lire dans ses yeux un certain intérêt qu'il semblait prendre à ma situation. Et cette idée est la seule consolation que j'ai eue dans cette terrible soirée. Je n'ai point retenu ce que Mylord Orville me disait. J'étais trop ému pour l'écouter avec attention. Je sais seulement que je gardais le silence et qu'après une courte pause, il me quitta. Je ne réussirai jamais, monsieur, à vous dépeindre tout ce que je souffrais. Je suppliais Madame Duval de me tenir séparée du reste de la société et de permettre que je demeurasse seule avec elle. Le Lord était encore trop près de nous pour que cette démarche eût pu lui échapper. Il revint sur ses pas. Cette complaisance me dédommagea en grande partie des chagrins que j'avais essuyés. Elle me prouva, dans un homme du caractère réservé et tranquille d'Orville, que mon embarras lui faisait quelque peine. C'est ainsi, du moins, que j'interprétais son retour. Il m'en fit ses excuses avec une politesse à laquelle je ne suis plus habituée dès longtemps. Il me demanda des nouvelles de Madame Mirvan et de sa famille. La conjecture flatteuse que j'avais formée me rendit le courage. Je lui répondis avec aisance. Notre conversation fut bientôt interrompue par un éclat de rire indécent de la part des demoiselles Brompton. J'en rougis. Mylord Orville leur lança un regard plein d'indignation et ne dit plus rien. Madame Duval, à qui les apparences en imposent si facilement, avait pris jusqu'ici les deux femmes qui s'étaient mises de notre parti pour des personnes du bon ton. Elle commença cependant à concevoir de la défiance et elle jugea à propos d'arrêter une loge pour y attendre M. Brompton. Nous y fûmes suivis par ces créatures hardies et Mylord Orville me souhaita le bonsoir d'un air de gravité qui me perça le cœur. Je n'eus pas la force de lui répondre, mais pour peu que ma physionomie ait été d'accord avec mes sentiments, elle devait porter l'empreinte d'une profonde mélancolie. J'ai lieu de croire qu'il s'en aperçut, car il ajouta avec douceur. Si Miss Anville daignait me donner son adresse, je lui demanderai la permission de lui rendre mes devoirs avant que de quitter Londres. Cette question inattendue acheva de me décontenancer. Je lui dis en tremblant que je demeurais dans Holborn. Il me fit une révérence et s'en alla. Que doit-il penser de cette aventure ? Toutes les apparences sont encore contre moi. Avec un peu de présence d'esprit, je lui aurais d'abord expliqué le mystère. Je lui aurais avoué par quel étrange hasard je m'étais trouvée dans cette horrible société. Mais je ne sais jamais ce que je fais. Je n'ai guère d'autres particularités à vous marquer du reste de la soirée. Cette rencontre fatale absorba toutes mes pensées et elle sera également le seul objet dont je vous entretiendrai aujourd'hui. Les deux malheureuses qui m'avaient tourmentée toute la soirée continuèrent à nous être fort à charge et elles s'amusèrent surtout à tourmenter le jeune Brown. Nous ne fûmes débarrassés d'elles qu'à l'arrivée de M. Brompton qui, par ses manières polies, parvint bientôt à les chasser. Nous nous retirâmes peu après. Quelles que soient les conjectures de Mylord Orville sur cette affaire, elles ne sauraient manquer de tourner à mon désavantage. M'avoir trouvé avec des femmes de cette espèce, quelle honte ! Jusqu'ici, j'ai toujours eu la vanité de souhaiter qu'il ne me vît point avec les Brompton et Madame Duval, et maintenant, je me croirais trop heureuse d'en avoir pas paru devant lui en bien plus mauvaise société. Joignez à cela l'adresse de ma demeure. Quel concours de circonstances fâcheuses ! Mais je ne veux point vous fatiguer par les réflexions humiliantes qui se présentent en foule à mon esprit. Peut-être viendra-t-il me faire la visite qu'il m'a promise, et alors je saisirai sûrement cette occasion pour lui expliquer tout ce que mon aventure offre de choquant. Cependant, comme je ne lui ai point indiqué au juste la maison que nous habitons, il aura de la peine à me découvrir. Je lui ai dit simplement que je demeurais dans Holborn, et l'embarras de ma réponse l'empêcha de me demander d'autres renseignements. Que faire ? Il faut prendre mon mal en patience. En attendant, je dois rendre justice à Mylord Orville et je suis confirmée plus que jamais dans la haute idée que j'ai toujours eue de son honnêteté et de sa délicatesse. Quelle différence entre sa conduite et celle d'un Sir Clément Willoughby ! Il avait pour le moins autant de sujets que celui-ci de prendre mauvaise opinion de moi. Cependant, avec quelle circonspection ne m'a-t-il pas traité ? Et s'il parut surpris de me trouver dans une situation aussi peu conforme à celle où il m'avait vue précédemment, du moins il ne s'en est pas prévalu pour m'insulter. Loin de là, je suis persuadée qu'il ne peut refuser sa pitié à une jeune personne tombée, en apparence, dans cet état avilissant. Mais, quels qu'aient été mes doutes et ses soupçons, il est certain qu'ils n'influèrent en rien sur sa conduite. Il me parla avec les mêmes égards et la même politesse qu'il m'avait témoigné autrefois quand je fis sa connaissance chez Madame Mirvan dans des conjonctures plus favorables. Quoi qu'il en soit, quittons ce sujet. Dans tous les revers que je rencontre, il m'est doux, mon cher monsieur, d'être convaincu que votre tendresse et votre protection me restent toujours. Ah, si ma plume pouvait exprimer la force de mes sentiments, avec quelle chaleur ne vous dirais-je pas combien je suis votre dévouée Evelina. Lettre 53. Suite de la lettre d'Evelina. Berry Hill, 28 juin. Excédé d'ennui et de mauvaise humeur, incapable de toute application quelconque, je ne sus faire rien de mieux, après avoir fini ma lettre d'hier, que de regarder par la fenêtre. J'y attendais tranquillement l'instant où il plairait à Madame Duval de m'appeler à son déjeuner, quand tout à coup l'apparition d'un équipage brillant me réveilla de mon indolence. Je vis en même temps Mylord Orville qui mit la tête à la portière et je me retirai aussitôt. Mais ce ne fut pas, je crois, sans avoir été remarqué. Du moins, la voiture tourna vers notre maison. J'étais très mal à mon aise, l'idée de recevoir seul le Lord Orville, la persuasion où j'étais qu'il ne venait que chez moi, mon désir de lui expliquer la malheureuse aventure d'hier, la mortification que me donnait ma situation actuelle, toutes ces réflexions se présentèrent à la fois à mon esprit et me préparèrent mal à la visite qui m'arrivait. Je m'étais attendu que le lord se ferait annoncer. Mais la servante, peu accoutumée au cérémonial, vint me dire qu'il y avait en bas un grand seigneur dont elle avait oublié le nom et qui demandait à me parler. En même temps, je vis entrer Mylord Orville lui-même. Si, du temps où je vivais encore dans le cercle du beau monde, j'ai admiré les manières distinguées et le bon goût de ce gentilhomme, je vous laisse à juger, monsieur, combien il devait me frapper davantage aujourd'hui où je me vois relégué dans une classe de gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que politesse ou bienséance. Je suis sûre que je reçus le lord assez gauchement, et cela est facile à comprendre. Le rôle que j'avais à jouer devant lui n'était ni aisé ni brillant. Après les premiers compliments d'usage, il me dit « Je m'estime heureux de trouver Misanville chez elle, et ce qui m'est bien plus agréable encore, de pouvoir lui parler sans témoin. » Je lui fis une révérence. Il m'entretint alors de Madame Mirvan, de mon séjour à Londres et de quelques autres sujets indifférents qui me laissèrent heureusement le temps de me remettre. Après quoi, il entama la conversation. Si Misanville me permet de passer quelques minutes avec elle, je prendrai la liberté de l'informer du principal motif de ma visite. Nous prîmes des sièges et il continua ainsi. Je ne sais comment justifier la franchise avec laquelle je vais vous parler, mais, madame, je me repose uniquement sur votre bonté. Elle m'excusera mieux que je ne pourrai le faire moi-même. Je lui répondis par une inclination de tête. Je serais au désespoir de passer pour indiscret, et cependant j'encours les risques. Vous, indiscret ? Non, my lord, la chose est impossible. Votre indulgence, madame, m'inspire du courage et je vais m'expliquer sans détour. » Il s'arrêta de nouveau. J'étais trop attentive pour penser à l'interrompre. Enfin, il baissa les yeux et, d'une voix timide et entrecoupée, il me dit « Ces dames avec lesquelles je vous vis hier, les connaissiez-vous déjà et vous êtes-vous jamais trouvées dans leur société ?»« Non, my lord, je les ai vues pour la première et la dernière fois. » Nous nous levâmes tous deux et il ajouta d'un ton très affectueux « Pardonnez, madame, ce que ma question peut avoir de trop brusque, mais je ne savais pas trop comment amener cette matière. Je n'ai d'autre excuse à alléguer que mon estime pour Madame Mirvan et l'intérêt sincère que je prends à votre propre bonheur. Malgré cela, peut-être j'ai été trop loin. Je suis très sensible, my lord, à l'honneur que vous me faites, mais... « Permettez-moi, madame, de vous assurer qu'il n'est pas dans mon caractère de m'ingérer à donner des avis. Je n'aurais point risqué de vous déplaire si je n'avais été persuadée que vous pensez trop bien pour vous offenser sans raison. »« Non, my lord, je ne me crois point offensée. mais je suis affligée de me voir dans une situation malheureuse qui m'oblige à recourir à des explications également pénibles et humiliantes. Madame, c'est sur moi que doivent retomber tous vos chagrins si j'ai pu vous en causer. Je n'ai point cherché d'explication, puisque je n'avais point de doute. Miss Anville ne m'a pas compris et elle se fait du tort à elle-même. Souffrez que je vous dise à cœur ouvert dans quelle intention je suis venue ici. » Nous reprîmes nos places et je le laissai continuer. J'avoue sans peine que j'ai été excessivement surpris de vous rencontrer hier au soir avec deux femmes qui, assurément, ne méritaient pas l'honneur de se trouver avec vous. Il ne me fut pas aisé de deviner par quel étrange accident vous étiez tombé en aussi mauvaise société. Cependant, malgré mon incertitude, je ne me suis point permis la moindre conjecture à votre désavantage. J'étais sûr que vous n'aviez aucune idée du caractère de ces femmes, et j'ai partagé les regrets que vous auriez lorsque vous les connaîtriez de plus près. En attendant, je n'aurais point osé vous en parler avec tant de franchise. Je ne vous aurais point entretenu de mon propre chef sur un sujet aussi délicat si je ne savais combien la crédulité est compagne de l'innocence. Je craignais qu'on ne vous trompât. Un certain sentiment, auquel je n'étais pas le maître de résister, m'a pressé de vous avertir d'être sur vos gardes. Mais je ne me pardonnerai point la liberté que j'ai prise si j'avais eu le malheur de vous faire de la peine. » L'orgueil que sa première question m'avait inspiré fit place actuellement à une plus douce émotion. Et pénétré de reconnaissance, je lui racontai ingénument, le mieux que je pus, de quelle manière j'avais joint ces deux malheureuses. Il écouta mon récit avec une attention si obligeante, y sembla prendre tant d'intérêt, et me remercia dans des termes si polis de ce qu'il appelait ma condescendance que je rougis presque de lever les yeux sur lui. Peu après, la servante vint me dire que le déjeuner m'attendait dans la chambre de Madame Duval. Le lord se leva aussitôt. « Je crains, dit-il, que ma visite n'ait été trop longue, mais qui, à ma place, aurait pu être moins indiscret ?» Puis, prenant ma main et la pressant contre ses lèvres, il ajouta « Miss Anville, me permet-elle de sceller ainsi ma paix ?» Et il se retira. « Généreux Mylord Orville, quelle conduite désintéressée, quelle délicatesse dans ses procédés! Il cherche à me donner de bons conseils et il craint en même temps de blesser ma sensibilité. Dois-je regretter encore l'aventure de Marybone, puisqu'elle m'a valu une visite si agréable? Eussé-je été mille fois plus humilié? Eussé-je essuyé des alarmes bien plus vives? Une telle marque d'estime, car j'ose l'appeler ainsi, de la part de Mylord Orville, suffirait pour compenser toutes mes peines. En effet, mon cher monsieur, ma situation actuelle exigeait quelques consolations, d'autant plus que, depuis sa visite, il est survenu de nouveaux incidents qui, vraisemblablement, me susciteront encore des embarras. Pendant le déjeuner, Madame Duval me demanda si j'aimerais à me marier, et elle ajouta que M. Branton lui avait proposé une alliance entre son fils et moi. Surprise et choquée d'une pareille ouverture, j'assurai Madame Duval que si M. Branton pensait sérieusement à moi, il perdait son temps. « J'avais moi-même, répliqua-t-elle, d'autres vues pour vous, et c'est dans cette intention que j'espérais de vous conduire à Paris. Mais puisque ce projet rencontre tant de difficultés, il me semble que vous ne sauriez mieux faire que d'accepter le parti qui se présente aujourd'hui. Vous m'appartenez l'un et l'autre, je vous laisserai mon bien, et de cette façon, je vous aurai pourvus tous deux. » Je la suppliai de ne point suivre un plan incompatible avec mes idées, puisqu'à mes yeux, ce jeune Branton était un personnage absolument insupportable. Mais elle continua ses exhortations et ses réflexions, sans faire, selon sa coutume, la moindre attention à mes objections. Elle me recommanda, du ton le plus impérieux, de tenir le jeune Branton en suspens, qu'il ne fallait ni accepter ni rejeter son offre, jusqu'à ce qu'elle pût voir ce qu'il y aurait à faire pour moi. Elle observa d'ailleurs que le jeune homme avait déjà été tenté souvent de me déclarer lui-même ses intentions, mais que, n'en ayant pas le courage, il avait prié de préparer les voies. Je ne me fis pas le moindre scrupule de lui avouer mon aversion pour une semblable proposition. Mais mes représentations furent inutiles et elle finit comme elle avait commencé, c'est-à-dire en me disant qu'il faudrait bien me résoudre à l'épouser si je ne trouvais pas mieux. Je suis décidé à ne prendre conseil dans cette ridicule affaire que de moi-même. Et au fond, elle ne m'inquiète guère. Un autre sujet de mécontentement me vient de la part de M. Dubois, qui, à ma grande surprise, saisit cet après-dîner le moment où Mme Duval était absente pour me glisser un billet. Cet écrit renferme une déclaration non équivoque de son attachement pour moi. M. Dubois y dit qu'il n'aurait jamais eu la présomption de me faire cet aveu s'il n'avait appris par Mme Duval qu'elle destinait ma main au jeune Brankton, alliance dont l'idée lui paraissait insoutenable. Il me supplie d'excuser sa témérité, me fait mille protestations d'un respect inviolable et s'en remet pour la décision de son sort au temps et à ma compassion. Cette démarche de M. Dubois me fait une vraie peine. J'avais si bonne opinion de lui. En attendant, il ne me sera pas difficile de le rebuter. Mme Duval ne saura rien du billet, elle n'en serait pas trop contente à ce que je crois. Lettre 54. Continuation de la lettre d'Evelina. 3 juillet. J'ai payé cher le bonheur passager d'une courte matinée. Les Brankton proposèrent hier une partie pour les jardins de Kensington, et j'y fus entraînée malgré moi, comme cela m'arrive toujours. On prit une remise jusqu'à Piccadilly, et de là, nous continuâmes notre chemin à pied par Hyde Park. En toute autre société, cette promenade m'eût fait plaisir. Les jardins de Kensington me plaisent beaucoup et je les préfère à ceux du Foxhall. Le jeune Brankton était extrêmement importun, il ne me quitta pas plus que mon ombre. Ma froideur et l'air réservé que j'affectais surent cependant le tenir en respect et il ne fut point question du sujet odieux auquel Madame Duval m'avait préparé. Une seule fois, quand je me fus éloigné de quelques pas du reste de la société, il s'avisa de me demander si sa tante ne m'avait rien dit. Je ne lui répondis point et il en resta là. M. Smith et le sieur Brown n'étaient point de cette partie. Le pauvre M. Dubois, voyant que je l'évitais, en parut fort attristé. J'aperçus à quelque distance Mylord Orville qui se promenait avec des dames et je me cachai derrière Miss Brankton pour l'éviter. Je n'aurais pas voulu qu'il me retrouvât dans un endroit public avec une société dont je n'avais pas sujet de me vanter. Mon dessein réussit et je ne le revis plus. D'ailleurs, la pluie survint et nous quittâmes bientôt le jardin. Nous fûmes obligés de nous retirer dans une taverne pour nous mettre à l'abri du mauvais temps. Nous y rencontrâmes deux domestiques dont je crus reconnaître la livrée. Et, effectivement, ils appartenaient à l'équipage de Mylord Orville. Je crus bien faire en priant Miss Brankton de ne point m'appeler par mon nom. Cette précaution était superflue, car parmi ces gens-ci, je n'ai point d'autre nom que ceux de cousine ou de miss. Mais les choses les plus innocentes suffisent souvent pour m'occasionner des embarras. Ma demande excita la curiosité de Miss Brankton, et elle me pressa vivement pour en savoir la raison. Je ne pus m'empêcher de lui dire que je connaissais le Lord Orville. Cet aveu m'entraîna à d'autres explications et Miss Brankton fit tant par ses importunités que je lui racontai en détail de quelle manière j'étais entrée en relation avec ce seigneur. Je n'eus pas plutôt satisfait à ses questions indiscrètes qu'elle appela sa sœur. « Imagine-toi, Polly, Miss a dansé avec un lord. »« Eh !» s'écria celle-ci, « qui l'aurait cru ? Et que vous a-t-il dit, Miss ?» Leur caquet attira bientôt l'attention de Madame Duval ainsi que celle de toute la coterie et mon histoire passa de bouche en bouche. Le jeune Brankton dit qu'à ma place, il profiterait du carrosse du Lord pour me faire ramener en ville. Monsieur Brankton, cet avis est bien trouvé. Cela s'appellerait tirer parti de ses connaissances et nous épargnerions la dépense d'un fiacre. Miss Polly, ah, je le voudrais de tout mon cœur. J'aimerais bien aller dans un équipage. Madame Duval, je vous promets que cette idée me revient beaucoup et je n'y vois point de difficulté. Faisons appeler le cocher. Pas pour tout au monde, répondis-je. La chose est impossible. Bon, on voit bien, mon enfant, reprit Madame Duval, que vous n'avez aucune idée de l'usage du monde. Laissez-moi faire. Puis, s'adressant à l'un des domestiques, « Je vous prie, monsieur, de faire avancer le cocher. J'ai à lui parler. » Le laquais la regarda, mais sans bouger.
« De grâce, madame, lui dis-je, ayez la bonté de renoncer à ce projet. Je ne connais pas assez Mylord Orville pour prendre une telle liberté. Taisez-vous, petite ignorante, et si ce valet ne veut point appeler le cocher, j'irai le chercher moi-même. »
Le domestique lui rit au nez, et madame Duval sortit pour faire un signe au cocher d'avancer. Il arriva en effet. J'employai tous mes soins pour prévenir l'incongruité qu'on allait commettre et pour engager madame Duval à prendre une remise. Mais à quoi servent les représentations avec cette femme? Elle poussa sa pointe avec d'autant plus d'opiniâtreté qu'elle apprit par les propos du laquais que Mylord Orville se trouvait au palais de Kensington et qu'il n'aurait pas besoin si tôt de son carrosse. Madame Duval demeura exposée à la risée de ses valets et le cocher lui demanda si Mylord avait donné la permission de se servir de sa voiture.
« Peu importe, lui répondit-elle, un seigneur aussi galant que lui aimerait mieux que nous en fissions usage plutôt que de nous laisser mouiller jusqu'aux os. Mais attendez, votre maître saura vos impertinences. Cette jeune demoiselle le connaît très bien. »
« Sans doute, ajouta Miss Polly, puisqu'elle a dansé avec lui. » Les domestiques s'étaient conduits assez grossièrement et les plaintes qu'on menaçait de porter au lord les intimidèrent un peu. L'un d'eux s'offrit d'aller au palais pour prendre les ordres de son maître. Cette idée fut saisie avec empressement. J'eus beau protester, madame Duval ne m'écouta plus et chargea le laquais, en mon nom, d'un message pour Mylord Orville. « Vous lui direz que Miss Anville, cette même demoiselle avec laquelle il a dansé dernièrement, lui demande sa voiture pour se faire conduire à Holborn. » Le domestique fut bientôt de retour et rapporta que son maître me faisait ses compliments et m'assurait que son carrosse était entièrement à ma disposition. Je fus sensible à cette politesse, mais le souvenir de la conduite inconsidérée qui y avait donné lieu m'occupa bien davantage. Madame Duval et les demoiselles Branton n'eurent rien de plus pressé que de monter en voiture. Il fallut me résoudre à les y suivre. Rendus chez nous, les Branton demandèrent au cocher qui les ramena à Snow Hill. Les domestiques, devenus plus polis, obéirent sans répliquer. Je ne m'en mêlai plus, persuadé que mes remontrances seraient parfaitement inutiles, et je me retirai dans ma chambre. Je n'ai guère passé une nuit plus inquiète. À peine avais-je réussi à me remettre bien dans l'esprit de Mylord Orville, et voilà déjà un nouvel accident qui gâte tout. Que pensera-t-il ? Faire trophée de sa connaissance, divulguer que j'ai dansé avec lui, prendre avec lui des libertés que je ne me permettais pas même avec des amis intimes, payer d'impertinence les égards distingués qu'il m'a témoignés, tels sont les reproches qu'il est en droit de me faire, et j'en rougis. Mais ce n'est pas tout. Une seconde scène, pire que la précédente, m'était encore réservée, et je vais vous en rendre compte. Je reçus ce matin la visite du jeune Branton. Il prit en entrant un air important qui ne lui est pas ordinaire, et en s'avançant fièrement vers moi, il me dit « J'ai à vous faire, miss, les compliments de Mylord Orville. » « De Mylord Orville ? » repris-je fort étonné. « Oui, de lui-même, je viens de faire sa connaissance. C'est bien le seigneur le plus aimable que j'ai jamais vu. » « Que veut dire ceci ? Expliquez-vous. » « Il faut que vous sachiez, miss, qu'hier en vous quittant, il nous est arrivé un petit accident qui, cependant, ne m'inquiète plus puisqu'il ne tire pas à conséquence. » Nous rencontrâmes dans le voisinage du quartier de Snow Hill une charrette. Et pouf, ne voilà-t-il pas qu'elle donne contre la voiture et brise une des roues. Pour comble de malheur, la glace était levée. Je n'y avais pas fait attention. Et en voulant ouvrir la portière, j'y tombe à pleine tête et j'en ai reçu, comme vous voyez, une blessure au front. Je m'embarrassais peu dans ce moment-ci de la blessure de M. Branton et je ne pensais qu'à écouter la fin de ce récit. Il continua en ces termes. Nous fûmes tous capots, comme vous pouvez croire, et le cocher prétendait qu'il n'était pas en état de reconduire le carrosse à Kensington. Que faire ? Les domestiques partirent pour informer leur maître de ce qui s'était passé, et mon père, craignant le ressentiment de Mylord Orville, m'y a envoyé ce matin pour lui faire nos excuses. Les laquais m'avaient enseigné sa demeure, et je me suis rendu chez lui au carré de Barclay. la belle maison. J'étais embarrassée de paraître devant un seigneur et j'avais préparé d'avance un beau compliment. Ces domestiques ne voulurent point m'annoncer. Ils me dirent que leur maître était occupé. J'allais m'en retourner quand j'imaginais un expédient qui me réussit à merveille. Je leur dis que je venais de votre part.
De ma part ?
Oui, miss, car vous n'auriez pas voulu que j'eusse fait tout ce chemin pour rien. Je priai donc le portier de dire à Mylord que quelqu'un demandait à lui parler de la part de Miss Anville.
Et qui vous en a donné la permission ?
Eh, bon Dieu, ne vous fâchez pas, miss. Vous serez contente quand vous apprendrez comment tourner à bien. Dès qu'on m'eut annoncé, je fus introduite sur le champ. Il me fallut passer une haie de domestiques et une enfilade de chambres sans fin. Je tirai mauvais présage de toute cette magnificence et je m'attendais à trouver un maître trop fier pour me parler. Mais il ne l'est pas plus que moi et il m'a traité comme si j'étais son égal. Je le priai donc d'excuser ce qui s'était passé et je l'assurai que la glace n'avait été cassée que par malheur. Il me répondit que c'était une bagatelle à laquelle il ne pensait plus, qu'il espérait seulement que vous aviez été heureusement rendu chez vous et que vous n'aviez point été effrayé de cet accident. Je l'assurai qu'il ne vous était arrivé aucun mal et que vous m'aviez chargé de lui faire vos compliments.
Ah, j'ai fait tout cela de ma propre tête pour le persuader d'autant plus que c'était vous qui m'envoyiez chez lui. Mais j'aurais dû commencer par vous dire que les gens de Mylord m'avaient conté qu'il allait demain hors de ville et qu'il se proposait de faire de grandes emplettes pour le mariage de sa sœur. Alors, le voyant si affable, il me vint dans l'esprit de lui offrir mes services.
« Nous nous recommandons, Mylord, lui dis-je, au cas que vous n'ayez pas encore donné votre parole. Mon père est orfèvre et il sera fier s'il vous plaisait de lui accorder votre pratique. » « Miss Anville, qui est notre cousine, vous en aura obligation. »«
Vous me poussez à bout » m'écriai-je en sautant de ma chaise. « Vous m'avez fait un sanglant affront et je ne veux plus entendre parler de vous. »
Je me retirai aussitôt dans ma chambre. J'étais furieuse et dans une espèce de délire. Je me crus perdue sans ressources dans l'esprit du Lord Orville. L'espérance dont je m'étais flattée de le revoir et de me justifier à ses yeux s'évanouissait avec le projet du voyage qu'il allait entreprendre. Il ne me restait que la crainte de demeurer pour toujours l'objet de son mépris. Cette idée était un coup de poignard pour mon cœur. Je ne pus la supporter. Mais je rougis de continuer, monsieur. Vous me blâmerez, et cependant, je ne me douterai pas d'avoir mérité vos reproches si je ne sentais une secrète répugnance à vous avouer la démarche que je me suis permise. Cette inquiétude seule me fait appréhender que j'ai manqué à mon devoir. J'ai déjà fait ma confidence à Miss Mirvan avant que de vous en écrire. Me pardonnerez-vous ce passe-droit ? Me pardonnerez-vous le projet que j'avais formé de ne vous en point parler du tout ? Mais j'ai bientôt reconnu que par une telle conduite, je me rendrais coupable d'une noire ingratitude, et j'aime mieux risquer d'encourir votre censure que de vous tromper. Ces détours vous auront peut-être déjà fait deviner de quoi il est question. Dans un premier moment de vivacité, j'ai adressé cette lettre à Mylord Orville. Lisez-la, monsieur, je vous la transcris mot à mot. Mylord. Je suis, on ne peut pas plus confuse, d'un message qui vous a été fait hier en mon nom, et je dois me justifier de l'indiscrétion dont vous êtes en droit de m'accuser. C'est sans mon consentement qu'on vous a demandé votre carrosse, et je ne m'y trouvais pas lorsqu'il a été endommagé. Je n'ai pas donné lieu non plus à la visite de l'importun qui s'est présenté ce matin à votre porte. Tout ceci s'est passé à mon insu. Je regrette infiniment l'embarras qui vous a été causé, et je vous proteste, Mylord, que je n'entre pour rien dans cette affaire, si ce n'est en prenant la liberté de vous faire mes excuses par ces lignes. Je suis, Mylord, votre très humble servante, Evelina Anville. J'avais chargé la servante de faire rendre ce billet au quartier de Barclay, mais je me ravisai le moment après, et j'allais descendre pour le reprendre, quand j'entendis la voix de Sir Clément Willoughby qui demandait à me parler. On me scella, conformément aux ordres de Madame Duval. Pendant ce temps, la servante avait déjà remis le billet entre les mains d'un messager, et celui-ci était parti avant que j'eusse eu le loisir de rétracter ma commission. J'attendis avec impatience le retour du messager. Il me rapporta que Mylord Orville n'était pas chez lui. Qui sait s'il me répondra? Peut-être viendra-t-il me voir? Peut-être aussi l'affaire en restera-t-elle là? En attendant, cette incertitude me met mal à mon aise.